Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. En considérant les écrits de l'apôtre Jean, nous réfléchissons aux derniers moments vécus par Jésus et aux paroles qu'il a prononcées. Lors de cette première série, nous abordons le chapitre 13 de son évangile. Notre lectrice va tout de suite nous lire les versets 31 à 33 de ce chapitre, et ensuite Colin nous rejoindra pour nous aider à comprendre ce passage. Les faits qui y sont relatés se sont déroulés lors du tout dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples.
Quand il fut parti, Jésus dit : Maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate, et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même, et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais.
Merci. Colin, bonjour, et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Nous revenons donc au 13e chapitre de l'évangile de Jean. Nous avons appris que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est abaissé en devenant leur serviteur, puis il les a exhortés à faire de même. Il les a encouragés à suivre son exemple. Nous avons compris que ce que Jésus a fait est une image de la purification et du pardon de nos fautes. Puis, nous avons réfléchi au fait que Judas allait plus tard dans la soirée trahir son maître.
C'est vrai, et d'ailleurs, au début du texte que nous venons d'écouter, nous apprenons que Judas venait tout juste sortir pour accomplir sa sale besogne. Puis Jésus a repris la parole pour parler de la gloire de Dieu.
Exactement. Ce sont des paroles assez énigmatiques et nous allons nous y attarder un certain temps afin de bien les comprendre. La gloire de Dieu manifestée en la personne de Jésus-Christ est un thème qui revient souvent dans cet évangile. Par exemple, au verset 14 du chapitre 1, nous lisons « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Autrement dit, Jésus, en tant que personne et du fait de son caractère, est une révélation de la gloire de Dieu. Toutefois, l'évangile de Jean nous parle aussi d'une heure particulièrement glorieuse, car un événement allait bientôt se dérouler, épisode que Jésus allait vivre. En effet, ces propos que nous avons écoutés en début d'émission suggèrent que cette heure glorieuse était sur le point de se manifester, qu'elle avait même déjà commencé.
Et pourtant, les paroles que Jésus a prononcées juste après le départ de Judas montrent qu'il savait que ce dernier allait le trahir. Il savait qu'il serait emmené devant un tribunal pour y être injustement condamné à mourir, attaché à une croix romaine. En cela, rien ne semble glorieux.
Il s'agit effectivement d'un grand paradoxe. Du point de vue purement humain, la crucifixion de toute personne, même celle d'un criminel, est une horreur, une abomination. Il est difficile de concevoir une méthode d'exécution plus humiliante et douloureuse. Dans le cas de Jésus, nous sommes témoins de la crucifixion d'un homme innocent. Nous assistons à une machination injuste mise en place par des hommes puissants qui croyaient que leur position privilégiée était menacée par le message de grâce et de justice apporté par Jésus. La croix révèle la méchanceté du cœur humain, son égoïsme, son mépris, sa cruauté, sa barbarie. La croix de Jésus-Christ représente le moment le plus sombre dans l'histoire de l'humanité. Le mal, comme cela est trop souvent le cas, semble remporter la victoire.
Et pourtant, Jésus annonce qu'à travers ces événements si cruels et tragiques, la gloire de Dieu finira par éclater.
C'est vrai, Ian. Et voici le paradoxe dont je voudrais parler. La croix de Jésus-Christ est glorieuse parce que par elle, Dieu accomplit ses desseins incomparables et merveilleux. La croix est, en effet, l'aboutissement des projets d'amour de notre Dieu qui est miséricordieux. toutes les riches bénédictions que Dieu verse dans nos vies reposent sur la croix ou dépendent d'elle, car c'est sur cette croix que Dieu enlève tout obstacle, il ôte les péchés du monde.
Quelle est la vérité qui se trouve au cœur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Pouvez-vous l'expliquer, s'il vous plaît?
Bien sûr, nous sommes tous, sans exception, pécheurs de nature. Cela veut dire que dans notre fort intérieur, nous tendons inlassablement vers le mal et notre nature pécheresse et les fautes qui en découlent nous séparent de Dieu. Elles se dressent comme une grande muraille ou comme un obstacle infranchissable sur notre chemin. Elles nous destinent également à la condamnation et à la mort. Elles nous privent de la vie abondante et éternelle, d'une vie qui consiste essentiellement à connaître Dieu et à vivre en communion avec lui dès maintenant et pour toujours. Une question se pose alors, comment un homme ou une femme qui sont du fait de leur nature des pécheurs peuvent-ils vivre en communion avec Dieu? Comment enlever cet obstacle qui se dresse entre Dieu et les êtres humains?
Et la réponse, c'est la croix de Jésus-Christ. Mais alors expliquez-nous plus en détail comment la croix apporte une solution au dilemme que vous venez de poser.
Jésus, un homme innocent et juste, a choisi de se charger de nos fautes et d'aller à la croix à notre place. Sur la croix, il a volontairement enduré le châtiment que nous méritions tous. Il est mort à notre place. Il a démoli le mur qui nous sépare de Dieu. Jésus a ainsi ouvert la route qui conduit à Dieu. Il a obtenu le pardon de nos péchés. Et puisque nous sommes pardonnés, nous pouvons jouir de toutes les riches bénédictions de Dieu, car plus rien ne se dresse entre lui et nous.
Et quelles sont ces bénédictions?
Selon l'évangile de Jean, Jésus parle de la vie abondante et de la vie éternelle. Cette vie consiste essentiellement en une nouvelle relation avec Dieu. Au chapitre 17 et au verset 3, Jésus définit la vie éternelle ainsi. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je voudrais citer aussi le chapitre 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » La vie que Jésus apporte et qui repose sur la croix, donc, est essentiellement relationnelle. Elle consiste à connaître Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Elle consiste même à devenir enfant de Dieu, un enfant bien-aimé. Quel privilège extraordinaire! Enfin, cette vie relationnelle avec Dieu est éternelle. Elle durera pendant cette ère présente et bien au-delà, pour l'éternité. C'est une vie qui ne s'arrêtera jamais. Cette vie incomparable et merveilleuse est le fruit de la mort de Jésus sur la croix. Et c'est pour cette raison que la croix est une révélation de la gloire de Dieu. La croix est révélatrice de la profondeur de la méchanceté de l'homme, mais elle est aussi révélatrice de la sagesse de Dieu, car elle met en relief sa justice et son amour. En résumé, la croix prouve la gloire de Dieu.
Ayant parlé de la gloire de Dieu, Jésus poursuit avec les paroles suivantes. « Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. » Que peut-on dire de ces propos?
En réalité, nous trouvons des propos similaires au chapitre 14, où les disciples posaient quelques questions à Jésus à ce sujet. Jésus savait qu'il allait bientôt mourir et il a annoncé à ses disciples qu'il était encore avec eux pour un peu de temps. C'était une façon de les préparer un peu en douceur à son départ. C'était aussi une façon d'encourager ses disciples à être attentifs à ce qu'il allait leur dire. Jésus allait passer une bonne partie de la soirée à les enseigner. Il allait profiter du peu de temps qui lui restait pour les préparer aux événements qui allaient se dérouler, afin de les aider à les comprendre et à les surmonter. Lors des séries que nous consacrerons à l'étude des chapitres 14 à 16 de ce même évangile, nous réfléchirons au sens de ces paroles que Jésus a prononcées, et nous apprendrons, comme les disciples, beaucoup de leçons importantes.
Et ensuite, Jésus annonce: « Vous ne pouvez pas venir où je vais. » Que voulait-il dire ?
Jésus allait retourner auprès de son Père dans les lieux célestes. Ce retour chez son Père allait passer par une étape assez particulière. Il allait mourir sur la croix. 3 jours plus tard, il reviendrait à la vie, et puis, quelques semaines après, ses disciples le verraient monter au ciel pour rentrer dans les lieux célestes. En fait, tout véritable disciple suivra un jour un cheminement similaire. Nous mourrons tous, à moins que Jésus ne revienne avant. Puis nous ressusciterons tous pour ensuite vivre éternellement dans la demeure que Dieu le Père a préparée pour nous. Nous en apprendrons plus lors des émissions à venir. Si Jésus annonce à ses disciples « Vous ne pouvez pas venir où je vais », c'est sûrement pour leur dire que l'heure de leur mort n'était pas encore venue et qu'ils devaient rester dans le monde, et ceci pour accomplir la mission que Jésus était sur le point de leur confier. Jésus préparait ses disciples donc aux événements qui allaient bouleverser leur vie. Ils allaient vivre de grands changements, des changements douloureux et difficiles. Jésus ne serait plus avec eux en chair et en os, mais il les rassure. Il leur enverrait son esprit qui est, lui aussi, Dieu avec nous.
Merci, Colin. Que devons-nous retenir? Quelle leçon apprendre de ces propos?
Il est vrai que nous n'avons jamais vécu avec Jésus comme les premiers disciples en avaient l'habitude. Nous avons toujours vécu dans l'époque de l'esprit. Cependant, nous aspirons comme les disciples à aller là où Jésus demeure. Nous aspirons à y aller parce que nos vies sont difficiles, elles sont souvent marquées par des épreuves, des souffrances, des luttes et de la lassitude. Cependant, pour le moment, Jésus nous dit que nous ne pouvons pas aller là où il est, du moins pas encore. Mais nous avons la merveilleuse espérance qu'un jour nous ressusciterons d'entre les morts et nous vivrons éternellement auprès de Dieu, dans une demeure parfaite que Jésus a préparée pour nous. Cependant, en attendant ce jour, Jésus nous confie une mission importante et il nous enseigne la manière de vivre dans ce monde tout en cheminant vers notre destin éternel.
Et quelle est la mission que Jésus confie à ses disciples?
Nous en parlerons la prochaine fois. Mais voici pour terminer notre émission aujourd'hui les versets que nous étudierons et qui touchent à ce sujet. Ils se trouvent dans l'Évangile de Jean au chapitre 13, les versets 34 et 35.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres.
Merci. Ce sont de très belles paroles et elles feront le sujet de nos réflexions lors de notre prochaine émission Espérance aujourd'hui. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.